sans famille, deuxième partie, chapitre 8, lavage du prince. J'aimais bien Mathia quand nous arrivâmes à Mende, mais quand nous sortîmes de cette ville, je l'aimais encore plus. Était-il rien de meilleur, rien de plus doux pour l'amitié que de sentir avec certitude que l'on est aimé de ce qu'on aime? Et quelle plus grande preuve Mathia pouvait-il me donner de son affection que de refuser, comme il l'avait fait, la proposition d'Espinassou, c'est-à-dire la tranquillité, la sécurité, le bien-être, l'instruction dans le présent et la fortune dans l'avenir pour partager mon existence aventureuse et précaire sans avenir et peut-être même sans lendemain. Je n'avais pas pu lui dire devant Espinassou l'émotion que son cri « Quitter mon ami » avait provoquée en moi. Mais quand nous fûmes sortis, je lui pris la main et la lui serrant, « Tu sais, lui dis-je, que c'est entre nous, à la vie et à la mort. » Il se mit à sourire en me regardant avec ses grands yeux. « Je savais ça avant aujourd'hui, » dit-il. Mathia, qui jusqu'alors avait été très peu mordu à la lecture, fit des progrès surprenants le jour où il lut dans « La théorie de la musique » de Kuhn. Malheureusement, je ne pus pas le faire travailler autant que j'aurais voulu et qu'il le désirait lui-même, car nous étions obligés de marcher du matin au soir, faisant de longues étapes pour traverser au plus vite ces pays de la Lorraise et de l'Auvergne qui sont peu hospitaliers pour des chanteurs et des musiciens. Sur ces pauvres terres, le paysan qui gagne peu n'est pas disposé à mettre la main à la poche. Il écoute avec un air placide tout ce qu'on veut bien jouer, mais quand il prévoit que la quête va commencer, il s'en va ou il ferme sa porte. Enfin, par Saint-Flour et Issoire, nous arrivâmes au village d'Eau, qui était le but de notre expédition, et il se trouva, par bonheur, que les renseignements du montreur d'ours étaient vrais. À la Bourboule, au Mont d'Or surtout, nous fîmes de belles recettes. Pour être juste, je dois dire que ce fut surtout à Mathia que nous les dûmes, à son adresse, à son tact. Pour moi, quand je voyais des gens assemblés, je prenais ma harpe et me mettais à jouer de mon mieux, il est vrai, mais avec une certaine indifférence. Mathia ne procédait pas de cette façon primitive. Quant à lui, il ne suffisait pas que des gens fussent rassemblés pour qu'il se mît tout de suite à jouer. Avant de prendre son violon ou son cornet à piston, il étudiait son public et il ne lui fallait pas longtemps pour voir s'il jouerait ou s'il ne jouerait pas et surtout ce qu'il devait jouer. À l'école de Garofoli, qui exploitait en grand la charité publique, il avait appris dans toutes ses finesses l'art si difficile de forcer la générosité ou la sympathie des gens. Dès la première fois que je l'avais rencontré dans son grenier de la rue de l'Oursine, il m'avait bien étonné en m'expliquant les raisons pour lesquelles les passants se décident à mettre la main à la poche. Mais il m'étonna bien plus encore quand je le vis à l'œuvre. Ce fut dans les villes d'Eau qu'il déploya toute son adresse. Et pour le public parisien, son ancien public, qu'il avait appris à connaître et qu'il retrouvait là. « Attention !» me disait-il, quand nous voyons venir à nous une jeune dame en deuil dans les allées du Capucin. C'est du triste qu'il faut jouer. Tâchons de l'attendrir et de la faire penser à celui qu'elle a perdu. Si elle pleure, notre fortune est faite. Et nous nous mettions à jouer avec des mouvements si ralentis que c'était à fendre le cœur. Il y a dans les promenades aux environs du Mont d'Or des endroits qu'on appelle des salons. Ce sont des groupes d'arbres, des quinconces sous l'ombrage desquels les baigneurs vont passer quelques heures en plein air. Mathia étudiait le public de ces salons et c'était après ses observations que nous arrangions notre répertoire. Quand nous apercevions un malade assis mélancoliquement sur une chaise, pâle, les yeux vitreux, les joues caves, nous nous gardions bien d'aller nous camper brutalement devant lui pour l'arracher à ses tristes pensées. Nous nous mettions à jouer loin de lui, comme si nous jouions pour nous seuls et en nous appliquant consciencieusement. Du coin de l'œil, nous l'observions. S'il nous regardait avec colère, nous nous en allions. S'il paraissait nous écouter avec plaisir, nous nous rapprochions et Capi pouvait présenter hardiment sa sébile. Il n'avait pas à craindre d'être renvoyé à coups de pied. Mais c'était surtout près des enfants que Mathia obtenait ses succès les plus fructueux. Avec son archet, il leur donnait des jambes pour danser, et avec son sourire, il les faisait rire, même quand ils étaient de mauvaise humeur. Comment s'y prenait-il? Je n'en sais rien, mais les choses étaient ainsi. Ils plaisaient, on l'aimait. Le résultat de notre campagne fut vraiment merveilleux. Toutes nos dépenses payées, nous eûmes assez vite gagné 68 francs. 68 francs et 146 que nous avions en caisse, cela faisait 214 francs. L'heure était venue de nous diriger sans plus tarder vers Chavanon, en passant par Ussel, où, nous avait-on dit, devait se tenir une foire importante pour les bestiaux. Une foire, c'était notre affaire. Nous allions pouvoir acheter enfin cette fameuse vache dont nous parlions si souvent et pour laquelle nous avions fait de si rudes économies. Jusqu'à ce moment, nous n'avions eu que le plaisir de caresser notre rêve et de le faire aussi beau que notre imagination nous le permettait. Notre vache serait blanche, c'était le souhait de Mathia. Elle serait rousse, c'était le mien. En souvenir de notre pauvre roussette, elle serait douce, elle aurait plusieurs seaux de lait. Tout cela était superbe et charmant. Mais maintenant, il fallait de la rêverie passer à l'exécution, et c'était là que l'embarras commençait. Comment choisir notre vache avec la certitude qu'elle aurait réellement toutes les qualités dont nous plaisions à la parer? Cela était grave. Quelle responsabilité! Je ne savais pas à quel signe on reconnaît une bonne vache, et Mathia était aussi ignorant que moi. Ce qui redoublait notre inquiétude, c'était les histoires étonnantes dont nous avions entendu le récit dans les auberges, depuis que nous nous étions mis en tête la belle idée d'acheter une vache. Qui dit maquignon de chevaux ou de vaches, dit artisan de ruse et de tromperie. Parmi les histoires qui nous avaient été contées, il y en avait une dans laquelle un vétérinaire jouait un rôle terrible, au moins à l'égard du marchand de vaches. Si nous prenions un vétérinaire pour nous aider, sans doute cela nous serait une dépense, mais combien elle nous rassurerait? Au milieu de notre embarras, nous nous arrêtâmes à ce parti, qui, sous tous les rapports, paraissait le plus sage, et nous continuâmes alors gaiement notre route. La distance n'est pas longue du Mont-d'Or à Ussel. Nous mîmes 2 jours à faire la route. Encore arrivons-nous de bonne heure à Ussel. J'étais là, dans mon pays, pour ainsi dire. C'était à Ussel que j'avais paru pour la première fois en public, dans le domestique de Monsieur Jolicoeur, où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Et c'était à Ussel aussi que Vitalis m'avait acheté ma première paire de souliers, ces souliers à clous qui m'avaient rendu si heureux. Pauvre Jolicoeur, il n'était plus là avec son bel habit rouge de général anglais, et Zerbino, avec la gentille Dolce manquait aussi. Pauvre Vitalis, je l'avais perdu et je ne le reverrai plus, marchant la tête haute, la poitrine cambrée, marquant le pas des 2 bras et des 2 pieds, en jouant une valse sur son fifre perçant. Sur 6 que nous étions alors, 2 seulement restaient debout, Capi et moi. Cela rendit mon entrée à Ussel toute mélancolique. Malgré moi, je m'imaginais que j'allais apercevoir le feutre de Vitalis au coin de chaque rue, que j'allais entendre l'appel qui tant de fois avait retenti à mes oreilles. « En avant !» Après avoir déposé nos sacs et nos instruments à l'auberge où j'avais logé avec Vitalis, nous nous mîmes à la recherche d'un vétérinaire. « Et pourquoi diable voulez-vous une vache ?» demanda le vétérinaire. En quelques mots, j'expliquais ce que je voulais faire de cette vache. « Vous êtes de bons garçons, » dit-il. « Je vous accompagnerai demain sur le champ de foire. Mais pour acheter, il faut être en état de payer. » Sans répondre, j'ai dénoué un mouchoir dans lequel était enfermé notre trésor. « C'est parfait. Venez me prendre demain matin à 7 heures. » À 7 heures, nous trouvâmes le vétérinaire qui nous attendait. et nous revînmes avec lui au champ de foire, en lui expliquant de nouveau quelles qualités nous exigions dans la vache que nous allions acheter. Elle se résumait en deux mots, donner beaucoup de lait et manger peu. « En voici une qui doit être bonne, » dit Mathia en désignant une vache blanchâtre. « Je crois que celle-là est meilleure, » dis-je en montrant une rousse. Le vétérinaire nous mit d'accord en ne s'arrêtant ni à l'une ni à l'autre, mais en allant à une troisième. C'était une petite vache aux jambes grêles, rouges de poils, avec les oreilles et les joues brunes, les yeux bordés de noir et un cercle blanchâtre autour du mufle. « Voilà une vache du Rouergue qui est justement ce qu'il vous faut, » dit-il. Un paysan à l'air chétif la tenait par la longe. Ce fut à lui que le vétérinaire s'adressa pour savoir combien il voulait vendre sa vache. « 300 francs !» Déjà, cette petite vache alerte et fine, maligne de physionomie, avait fait notre conquête. Les bras nous tombèrent du corps. « 300 francs !» Ce n'était pas du tout notre affaire. Je fis signe au vétérinaire pour lui dire que nous pouvions passer à une autre. Il m'en fit un pour me dire au contraire que nous devions persévérer. Alors une discussion s'engagea entre lui et le paysan. Il offrit 150 francs. Le paysan diminua 10 francs. Le vétérinaire monta à 170. Le paysan descendit à 280. Mais arrivé à ce point, les choses ne continuèrent pas ainsi, ce qui nous avait donné bonne espérance. Au lieu d'offrir, le vétérinaire commença à examiner la vache en détail. Elle avait les jambes trop faibles, le cou trop court, les cornes trop longues, elle manquait de poumons, la mamelle n'était pas bien conformée. Le paysan répondit que puisque nous nous y connaissions si bien, il nous donnerait sa vache pour 250 francs, afin qu'elle fût en bonne main. Là-dessus, la peur nous prit, nous imaginant tous deux que c'était une mauvaise vache. « Allons-en voir d'autres, » dis-je. Sur ce mot, le paysan, faisant un effort, diminua de nouveau de 10 francs. Enfin, de diminution en diminution, il arriva à 210 francs, mais il y resta. D'un coup de coude, le vétérinaire nous avait fait comprendre que tout ce qu'il disait n'était pas sérieux et que la vache, loin d'être mauvaise, était excellente. Mais 210 francs, c'était une grosse somme pour nous. Pendant ce temps, Mathia, tournant par derrière la vache, lui avait arraché un long poil à la queue et la vache lui avait détaché un coup de pied. Cela me décida. « Va pour 210 francs, » dis-je, croyant tout fini. « Vous avez importé un licou ?» me dit le paysan. « Je vends la vache, je ne vends pas son licou. » Cependant, comme nous étions amis, il voulait bien me céder ce licou pour 30 sous. Ce n'était pas cher. Il nous fallait un licou pour conduire notre vache. J'abandonnais les 30 sous, calculant qu'il nous en resterait encore 20. « Où est donc votre longe ?» demanda le paysan. « Je vous ai vendu le licou ?» « Je ne vous ai pas vendu la longe. » La longe nous coûta 20 sous, nos 20 derniers sous. Et lorsqu'ils furent payés, la vache nous fut enfin livrée avec son licou et sa longe. Nous avions une vache, mais nous n'avions plus un sou, pas un seul pour sa nourriture et pour nous nourrir nous-mêmes. « Nous allons travailler, » dit Mathia. « Les cafés sont pleins de monde. » En nous divisant, nous pouvons jouer dans tous. Nous aurons une bonne recette ce soir. » Et après avoir conduit notre vache dans l'écurie de notre auberge, où nous l'attachâmes avec plusieurs nœuds, nous nous mîmes à travailler, chacun de notre côté. Et le soir, quand nous fîmes le compte de notre recette, je trouvai que celle de Mathia était de 4 francs 50 centimes et la mienne de 3 francs. Avec 7 francs 50 centimes, nous étions riches. Mais la joie d'avoir gagné ces 7 francs 50 était bien petite comparée à la joie que nous éprouvions d'en avoir dépensé 214. Nous décidâmes la fille de cuisine à traire notre vache et nous soupâmes avec son lait. Jamais nous n'en avions bu d'aussi bon. Mathia déclara qu'il était sucré et qu'il sentait la fleur d'oranger, comme celui qu'il avait bu à l'hôpital, mais bien meilleur. Et dans notre enthousiasme, nous allâmes embrasser notre vache sur son mufle noir. Sans doute elle fut sensible à cette caresse, car elle nous lécha la figure de sa langue rude. « Tu sais qu'elle embrasse !» s'écria Mathia, ravie. Pour comprendre le bonheur que nous éprouvions à embrasser notre vache et à être embrassés par elle, il faut se rappeler que ni Mathia ni moi, nous n'étions gâtés par les embrassades. Notre sort n'était pas celui des enfants choyés qui ont à se défendre contre les caresses de leur mère. Et tous deux, cependant, nous aurions bien aimé à nous faire caresser. Le lendemain matin, nous étions levés avec le soleil et tout de suite nous nous mettions en route pour Chavanon. Mon intention pour ne pas fatiguer notre vache était aussi pour ne pas arriver trop tard à Chavanon, était d'aller coucher dans le village où j'avais passé ma première nuit de voyage avec Vitalis, dans ce lit de fougère, où le bon Capi, voyant mon chagrin, était venu s'allonger près de moi et avait mis sa patte dans ma main pour me dire qu'il serait mon ami. De là, nous partirions le lendemain matin pour arriver de bonne heure chez Mère Barberin. Mais le sort qui jusque-là nous avait été si favorable se mit contre nous et changea nos dispositions. Nous étions décidés de partager notre journée de marche en deux parts et de la couper par notre déjeuner, surtout par le déjeuner de notre vache, qui consisterait en herbe des fossés de la route qu'elle pèterait. Vers 10 heures, ayant trouvé un endroit où l'herbe était verte et épaisse, nous mîmes les sacs à bas et nous fîmes descendre notre vache dans le fossé. Tout d'abord, je voulus la tenir par la longe, mais elle se montra si tranquille et surtout si appliquée à paître que bientôt je lui entortillai la longe autour des cornes et m'assis près d'elle pour manger mon pain. Naturellement, nous eûmes fini de manger bien avant elle. Alors, après l'avoir admirée pendant assez longtemps, ne sachant plus que faire, nous nous mîmes à jouer aux billes, Mathia et moi, car il ne faut pas croire que nous étions de petits bonhommes graves et sérieux, ne pensant qu'à gagner de l'argent. Nous eûmes fini de jouer avant que la vache eût fini de paître. Et quand elle nous vit venir à elle, elle se mit à tondre l'herbe à grands coups de langue, comme pour nous dire qu'elle avait encore faim. « Attendons un peu, » dit Mathia. « Tu ne sais pas qu'une vache mange toute la journée ?»« Un tout petit peu. » Tout en attendant, nous reprîmes nos sacs et nos instruments. « Si je lui jouais un petit air de cornet à piston, » dit Mathia, qui restait difficilement au repos. « Nous avions une vache dans le cirque Gasso et elle aimait la musique. » Et sans en demander davantage, Mathia se mit à jouer une fanfare de parade. Aux premières notes, notre vache leva la tête. Puis, tout d'un coup, avant que j'eusse pu me jeter à ses cornes pour prendre sa longe, elle partit au galop. Et aussitôt, nous partîmes après elle, galopant aussi de toutes nos forces en l'appelant. Je criais à Capi de l'arrêter. Mais on ne peut pas avoir tous les talents. Un chien de conducteur de bestiaux eût sauté au nez de notre vache. Capi, qui était un savant, lui sauta aux jambes. C'était 2 kilomètres environ avant d'arriver à un gros village que nous nous étions arrêtés pour manger. Et c'était vers ce village que notre vache galopait. Elle entra dans ce village naturellement avant nous, et comme la route était droite, nous pûmes voir, malgré la distance, que des gens lui barraient le passage et s'emparaient d'elle. À mesure que nous avancions, le nombre des gens augmentait autour de notre vache. Et quand nous arrivâmes enfin près d'elle, il y avait là une 20aine d'hommes, de femmes ou d'enfants qui discutaient en nous regardant venir. Je m'étais imaginé que je n'avais qu'à réclamer ma vache. Mais au lieu de me la donner, on nous entoura et l'on nous posa question sur question. D'où venions-nous? Puis, où avions-nous eu cette vache? Nos réponses étaient aussi simples que faciles. Cependant, elles ne persuadèrent pas ces gens. Et 2 ou 3 voix s'élevèrent pour dire que nous avions volé cette vache qui nous avait échappé et qu'il fallait nous mettre en prison en attendant que l'affaire s'éclaircit. L'horrible frayeur que le mot de prison m'inspirait me troubla et nous perdit. Je pâlis, je balbutiais, et comme notre course avait rendu ma respiration haletante, je fus incapable de me défendre. Sur ces entrefaites, Un gendarme arriva. En quelques mots, on lui conta notre affaire. Et comme elle ne lui parut pas nette, il déclara qu'il allait mettre notre vache en fourrière et nous en prison. On verrait plus tard. Je voulus protester. Mathia a voulu parler. Le gendarme nous imposa durement silence. Alors, me rappelant la scène de Vitalis avec l'agent de police de Toulouse, je dis à Mathia de se taire et de suivre monsieur le gendarme. Tout le village nous fit cortège jusqu'à la mairie où se trouvait la prison. On nous entourait, on nous pressait, on nous poussait, on nous bourrait, on nous injuriait. Et je crois bien que sans le gendarme qui nous protégeait, on nous aurait lapidés comme si nous étions de grands coupables, des assassins ou des incendiaires. Et cependant, nous n'avions commis aucun crime. Mais les foules sont souvent ainsi. Elles s'en rapportent aux premières apparences. Ils se tournent contre les malheureux sans savoir ce qu'ils ont fait, s'ils sont coupables ou innocents. Nous étions en prison. Pour combien de temps ? Comme je me posais cette question, Mathia vint se mettre devant moi et baissant la tête. « Cogne, dit-il, cogne sur la tête. Tu me frapperas jamais assez fort pour ma bêtise. Tu as fait la bêtise et j'ai laissé la faire. J'étais aussi bête que toi. J'aimerais mieux que tu cognes. J'aurais moins de chagrin. Notre pauvre vache, la vache du prince. » Et il se mit à pleurer. Alors ce fut à moi de le consoler, en lui expliquant que notre position n'était pas bien grave. Nous n'avions rien fait, et il ne nous serait pas difficile de prouver que nous avions acheté notre vache. Le bon vétérinaire Ducel serait notre témoin. Et si l'on nous accuse d'avoir volé l'argent avec lequel nous avons payé notre vache, comment prouverons-nous que nous l'avons gagnée ? Mathia avait raison. Et puis, dit Mathia en continuant de pleurer, quand nous sortirions de cette prison, quand on nous rendrait notre vache, est-il certain que nous trouverons Mère Barberin ? Pourquoi ne la trouverions pas ? Depuis le temps que tu l'as quittée, elle a pu mourir. Je fus frappée au cœur par cette crainte. C'était vrai que Mère Barberin avait pu mourir, car bien que n'étant pas d'un âge où l'on admet facilement l'idée de la mort, je savais par expérience qu'on peut perdre ce qu'on aime. N'avais-je pas perdu Vitalis ? Comment cette idée ne m'était-elle pas venue déjà ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt ? Demandai-je. Parce que quand je suis heureux, je n'ai que des idées gaies dans ma tête stupide, tandis que quand je suis malheureux, je n'ai que des idées tristes. Et j'étais si heureux à la pensée d'offrir ta vache à ta mère Barberin que je ne voyais que le contentement de mère Barberin. Je ne voyais que le nôtre, et j'étais ébloui, comme grisé. Assurément, c'était l'influence de la prison qui nous inspirait ces tristes pensées. C'était les cris de la foule, c'était le gendarme, c'était le bruit de la serrure et des verrous quand on avait fermé la porte sur nous. J'essayais cependant de réconforter Mathia en lui expliquant qu'on allait venir nous interroger. « Eh bien, que dirons-nous ? La vérité ? Alors on va te mettre entre les mains de Barberin, ou bien si Mère Barberin est seule chez elle, on va l'interroger aussi pour savoir si nous ne mentons pas. Nous ne pourrons donc plus lui faire notre surprise. » Enfin, notre porte s'ouvrit avec un terrible bruit de ferraille. Et nous vîmes entrer un vieux monsieur à cheveux blancs, dont l'air ouvert et bon nous rendit tout de suite l'espérance. « Allons, coquin, levez-vous, dit le geôlier, et répondez à monsieur le juge de paix. » « c'est bien, dit le juge de paix en faisant signe au geôlier de le laisser seul. « Je me charge d'interroger celui-là. » Il me désigna du doigt. « Emmenez l'autre et gardez-le. Je l'interrogerai ensuite. » Je crus que dans ces conditions, je devais avertir Mathia de ce qu'il avait à répondre. « Comme moi, monsieur le juge de paix, dis-je, il vous racontera la vérité, toute la vérité. » « c'est bien, interrompit vivement le juge de paix, comme s'il voulait me couper la parole. » Mathia sortit, Mais avant, il eut le temps de me lancer un rapide coup d'œil pour me dire qu'il m'avait compris. « On vous accuse d'avoir volé une vache, » me dit le juge de paix en me regardant dans les yeux. Je répondis que nous avions acheté cette vache à la foire du sel et je nommai le vétérinaire qui nous avait assistés dans cet achat. « Cela sera vérifié. » « Je l'espère, car ce sera cette vérification qui prouvera notre innocence. » « Et dans quelle intention avez-vous acheté une vache ?»« Pour la conduire à Chavanon et l'offrir à la femme qui a été ma nourrice, en reconnaissance de ses soins et en souvenir de mon affection pour elle. » « Et comment se nomme cette femme ?»« Mère Barberin. » « Est-ce la femme d'un ouvrier maçon ?» qui, il y a quelques années, a été estropié à Paris ? Oui, monsieur le juge de paix. Cela aussi sera vérifié. Mais je ne répondis pas à cette parole comme je l'avais fait pour le vétérinaire du sel. Voyant mon embarras, le juge de paix me pressa de questions et je dus répondre que s'il interrogeait mère Barberin, le but que nous nous étions proposé se trouvait manqué et il n'y avait plus de surprise. Cependant, au milieu de mon embarras, j'éprouvais une vive satisfaction, puisque le juge de paix connaissait Mère Barberin et qu'il s'informerait auprès d'elle de la vérité ou de la fausseté de mon récit, cela prouvait que Mère Barberin était toujours vivante. J'en éprouvais bientôt une plus grande encore. Au milieu de ces questions, le juge de paix me dit que Barberin était retourné à Paris depuis quelque temps. Cela me rendit si joyeux que je trouvais des paroles persuasives pour le convaincre que la déposition du vétérinaire devait suffire pour lui prouver que nous n'avions pas volé notre vache. « Et où avez-vous eu l'argent nécessaire pour acheter cette vache ?» C'était là la question qui avait si fort effrayé Mathia quand il avait prévu qu'elle nous serait adressée. « Nous l'avons gagnée. » « Où ? Comment ?» J'expliquais comment, depuis Paris jusqu'à Vars, et puis depuis Vars jusqu'au Mont d'Or, nous l'avions gagné et amassé sou à sou. « Et qu'alliez-vous faire à Vars ?» Cette question m'obligea à un nouveau récit. Quand le juge de paix entendit que j'avais été enseveli dans la mine de la Truyère, il m'arrêta, et d'une voix tout adoucie, presque amicale, « Lequel de vous deux est Rémi ? » dit-il. « Moi, monsieur le juge de paix. »« Qui le prouve ? » ?»« Tu n'as pas de papier, » m'a dit le gendarme. « Non, monsieur le juge de paix. »« Allons, raconte-moi comment est arrivée la catastrophe de Vars. J'en ai lu le récit dans les journaux. Si tu n'es pas vraiment Rémi, tu ne me tromperas pas. Je t'écoute. Fais donc attention. » Le tutoiement du juge de paix m'avait donné du courage. Je voyais bien qu'il ne nous était pas hostile. Quand j'eus achevé mon récit, le juge de paix me regarda longuement avec des yeux doux et attendris. Je m'imaginais qu'il allait me dire qu'il nous rendait la liberté, mais il n'en fut rien. Sans m'adresser la parole, il me laissa seul. Sans doute il allait interroger Mathia pour voir si nos deux récits s'accorderaient. Je restai assez longtemps livré à mes réflexions, mais à la fin, le juge de paix revint avec Mathia. « Je vais prendre des renseignements à Ussel, » dit-il, « et si, comme je l'espère, il confirme vos récits, demain on vous mettra en liberté. »« Et notre vache ?» demanda Mathia. « On vous la rendra. »« Ce n'est pas ça que je voulais dire, » répliqua Mathia. « Qui va lui donner à manger ?» Qui va la traire ? Sois tranquille, gamin. Mathia aussi était rassuré. Si on traite notre vache, dit-il en souriant, est-ce qu'on ne pourrait pas nous donner le lait ? Ce serait bien bon pour notre souper. Aussitôt que le juge de paix fut parti, j'annonçai à Mathia les deux grandes nouvelles qui m'avaient fait oublier que nous étions en prison, mère Barberin vivante et Barberin à Paris. « La vache du prince fera son entrée triomphale !» dit Mathia. Et dans sa joie, Il se mit à danser en chantant. Je lui pris les mains, entraîné par sa gaieté. Et Capi, qui jusqu'alors était resté dans un coin, triste et inquiet, vint se placer au milieu de nous, debout sur ses deux pattes de derrière. Alors, nous nous livrâmes à une si belle danse que le concierge effrayé vint voir si nous ne nous révoltions pas. Il nous engagea à nous taire, mais il ne nous adressa pas la parole brutalement, comme lorsqu'il était entré avec le juge de paix. Par là, nous comprîmes que notre position n'était pas mauvaise, et bientôt, nous eûmes la preuve que nous ne nous étions pas trompés, car il ne tarda pas à rentrer, nous apportant une grande terrine toute pleine de lait, le lait de notre vache. Mais ce n'était pas tout. Avec la terrine, il nous donna un gros pain blanc et un morceau de veau froid qui, nous dit-il, nous était envoyé par Monsieur le juge de paix.